franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, des scientifiques qui montent au créneau sur le danger des perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques ultra présents dans notre vie quotidienne.
Les phtalates. Nous y sommes tous exposés. Via le plastique PVC et les rideaux de douche, revêtements plastifiés, tapis de sol, détergents, sprays, tissus imperméables, ballons, films alimentaires, fenêtres, adhésifs écoles, motifs sur vêtements.
Et la liste est très très longue, celle des perturbateurs endocriniens, et pourtant leur dangerosité est encore aujourd'hui mise en doute après les climato-sceptiques qui contestaient les preuves scientifiques de l'origine humaine du réchauffement climatique. Eh bien, ces produits chimiques sont aujourd'hui la cible des marchands de doute, pour reprendre cette formule d'une centaine de scientifiques signataires d'une tribune qui paraît aujourd'hui dans le journal Le Monde. Jamais, je cite, l'humanité n'a été confrontée à un fardeau aussi important de maladies en lien avec le système hormonal. Bonjour Stéphane Aurel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez signé deux documentaires sur les perturbateurs endocriniens, deux livres sur le même sujet, et puis par téléphone pour évoquer donc cette tribune du Monde, Robert Barouki est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biochimiste et toxicologue à l'INSERM. Où êtes-vous en ce moment même, Robert Barouki?
Je suis dans un colloque des académies, donc des académies de sciences, de médecine, de pharmacie, d'agriculture, sur les perturbateurs endocriniens. Donc vous voyez, on en discute au plus haut niveau.
Et Stéphane Aurel, vous êtes échappé justement de cet endroit pour venir nous parler.
Absolument.
Ouais, c'est la première fois qu'on organise une telle réunion?
C'est la première fois qu'il y a une journée entière consacrée à cette question à l'académie, oui.
Ouais, c'est plutôt bon signe.
C'est le signe que c'est devenu un sujet presque mainstream.
Mainstream.
Est-ce que ça reflète aussi une prise de conscience de l'enjeu de santé publique?
Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de prise de conscience dans la société. Alors que cette prise de conscience ait lieu dans le milieu scientifique, c'est absolument fondamental, parce que après, si cette prise de conscience n'a pas lieu dans ce milieu-là, comment peut-il arriver ailleurs?
Ouais. Robert Barouki, alors cet événement coïncide justement avec l'apparition de cette tribune dans Le Monde, que vous co-signez avec près d'une centaine de scientifiques, qui s'intitule donc « Halte à la manipulation scientifique ». Alors pourquoi ce coup de gueule-là aujourd'hui?
Ben parce que, vous savez, l'Europe a mis très très longtemps une définition des perturbateurs endocriniens. Alors, donc on a eu droit à une définition il y a quelques temps, mais qui reste extrêmement restrictive. Voilà, elle ne définit que les perturbateurs endocriniens les plus avérés, donc ça va se limiter à très très peu, et nous vous dirions que ça évolue beaucoup plus vite sur ce plan-là.
D'accord. On va reparler de cette bataille justement à Bruxelles, hein, au sein de la Commission européenne. Mais dans cette tribune, les scientifiques évoquent une lutte comparable à celle qui les a opposés aux climato-sceptiques. Comment se manifeste cette offensive des, comment on les appelle, alors les perturbateurs endocriniens sceptiques, Stéphane Aurel?
Ça va être compliqué à dire. Ouais.
En fait, dans tous les domaines où il y a des produits dangereux qui sont mis en cause ou menacés par des réglementations, il y a des stratégies qui sont utilisées par les industriels qui vendent ces produits pour retarder la réglementation ou les affaiblir ou les supprimer totalement. Et c'est une stratégie qui a été inventée par l'industrie du tabac dans les années 50. On peut même dire avant, ça date de l'industrie du plomb, le plomb dans l'essence qui a été mis dans les, enfin, le plomb a été mis dans l'essence dans les années 20, alors que on a mis des décennies à l'en retirer, alors que ça a endommagé le cerveau de plusieurs générations. Donc
cette façon de faire, en tout cas, est le poids des lobbies, hein, qui est toujours là, très forte.
Ce sont des industriels qui préfèrent mettre des moyens dans du lobbying et financer du doute, et de donner l'impression qu'il n'y a pas de controverse, pas de consensus scientifique, plutôt que d'investir dans des alternatives.
Donc c'est un écran de fumée, au fond, hein, qui est fait de façon volontaire.
Concrètement, pour le grand public, c'est quoi? C'est de la désinformation?
C'est vis-à-vis du grand public, mais surtout vis-à-vis des décideurs. Et c'est en ça que c'est problématique. Il y a un manque d'éducation et de culture chez les décideurs qui fait que c'est assez, apparemment en tout cas, assez facile de les entourlouper.
Par exemple, depuis quand dispose-t-on de preuves scientifiques solides sur la toxicité de ces produits chimiques?
Alors Robert Barouki, qui est en ligne avec nous, va pouvoir nous répondre sur cette question.
Vous avez entendu cette question, monsieur?
Eh bien, ça dépend de ce dont on parle. Pour certains produits, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a quelques arguments, mais ce qui se passe, c'est que régulièrement, tous les mois, tous les ans, il y a des études qui s'accumulent et qui vont dans le sens de la responsabilité des perturbateurs endocriniens, en tout cas de leur contribution à un certain nombre de pathologies. Les scientifiques qui s'en occupent ne nient pas les incertitudes. Au contraire, hein, en science, il y a toujours des incertitudes, et ça, c'est pas du tout quelque chose que nous nions. Maintenant, dire parce qu'il y a des incertitudes, il ne faut surtout rien faire, c'est là que le bât blesse.
Pourquoi faire ce parallèle donc exactement entre les climato-sceptiques et aujourd'hui ce problème des perturbateurs endocriniens? Pourquoi c'est judicieux justement de mettre les deux choses sur le même plan?
Parce que c'est un problème en fait mondial, international, qui concerne tout le monde, et parce que c'est un problème sur lequel il va falloir prendre un certain nombre de décisions relativement rapidement si on veut éviter que une plus grande part de la population ne soit encore exposée. Donc nous pensons qu'il y a des similitudes sur ce plan-là. Il y a effectivement au-delà de la controverse sur le fait qu'il y ait des climato-sceptiques ou des personnes qui doutent des perturbateurs endocriniens, nous pensons que ce sont des problèmes vraiment importants au niveau international et qu'il faut bouger là-dessus.
Il y a des mesures de lutte convergentes aussi ?
Alors ça, je ne peux pas vous répondre exactement, mais je veux dire, c'est nous scientifiques, si vous voulez, nous pensons que ça a atteint un niveau tel qu'il faut prendre des mesures à l'échelle internationale, réaliser le même type de comité indépendant qu'il y a pour la question climatique, que ce type de comité... Le GIEC, voilà, qui s'adresse donc au climat. Il faudrait faire quelque chose d'équivalent sur la toxicité chimique, et notamment les perturbateurs endocriniens, pour qu'il y ait des évaluations poursuivies et sérieuses, et sur lesquelles on ne peut pas douter, faites par ce type de comité.
Alors Stéphane Aurel, justement, ce que montre aussi cette tribune du Monde, hein, c'est qu'en s'attaquant aux perturbateurs endocriniens, on s'attaque aussi à la question climatique.
Hein. Oui, parce qu'au-delà de cette question des stratégies communes utilisées par différents secteurs de l'industrie, il y a aussi le fait que le point commun, c'est la pétrochimie. Il y a le recours aux énergies fossiles qui est à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, et les substances chimiques qui sont ajoutées aux produits quotidiens, les plastiques, cosmétiques, les pesticides, proviennent de ces mêmes industries. Donc ce à quoi ces scientifiques appellent à la fin de la tribune, c'est la création justement d'une sorte de GIEC qui adresserait ces deux problèmes de façon conjointe, hein, et parce que de réduire le recours aux énergies fossiles réduirait l'exposition de la population aux deux problèmes.
Voilà, d'où l'intérêt de mener les deux de front, hein, exactement.
Et on comprend mieux l'hostilité de certains industriels. On pense par exemple au secteur des pesticides. Évidemment, une réglementation à la matière, ça...
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une réglementation des perturbateurs endocriniens, ça concerne toute l'industrie. Parce qu'il y en a dans tous les produits. C'est-à-dire que l'industrie des pesticides est en première ligne aujourd'hui parce que c'est le règlement pesticide qui doit être traité par l'Union européenne aujourd'hui. Mais comme la loi européenne doit être cohérente, on ne peut pas appeler un perturbateur endocrinien un chat dans une loi et un chat un teckel dans une autre. Donc ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien dans une loi européenne, ce sera aussi un perturbateur endocrinien dans la loi pour les cosmétiques, la directive 4 sur l'eau, etc. Donc tous les secteurs de l'industrie qui fabriquent, qui vendent des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens seront un jour touchés par cette réglementation, et ça va des jouets à l'alimentation. Quoi.
Ouais, Robert Barouki, la question des experts, justement, hein, qui permettent de prendre des décisions et de faire les réglementations, ça c'est un problème crucial au sein de la science aujourd'hui, et l'indépendance évidemment de ces personnes.
Crucial au niveau de l'interaction entre la science et la décision. Nous sommes des scientifiques. Hein. Ceux qui ont signé, c'est des scientifiques qui disent, écoutez, nous, on pense qu'il y a quand même une accumulation de données et notre boulot, c'est de donner ces observations aux décideurs et leur dire, voilà où on en est. Ensuite, il y a cette articulation avec la décision, et là, effectivement, il faut qu'il y ait une décision qui tienne compte, disons, de l'évolution des données scientifiques.
Robert Barouki, très vite pour terminer, les conséquences justement de ces perturbateurs endocriniens sur la santé. Évoquez-nous quelques pathologies directement liées à ces produits chimiques.
Écoutez, ce matin, donc au colloque donc des académies, on a beaucoup parlé, par exemple, du développement neurocomportementales des enfants suite à des expositions pendant pendant la grossesse. Et donc là, c'est un problème qui est crucial parce que ça touche notamment le quotient intellectuel, ça touche un certain nombre de comportements, peut-être l'autisme. Donc ça touche beaucoup de choses. Là, ça c'est un exemple, mais on parle aussi d'effets sur l'obésité, le métabolisme, certains cancers et des problèmes immunitaires.
Merci beaucoup Robert Barouki. Vous poursuivez donc cette journée à la Académie des sciences autour des perturbateurs endocriniens. Merci à vous Stéphane Aurel. Et donc on peut lire cette tribune qui sort cet après-midi dans le papier, hein, dans la version papier du Monde, et puis déjà depuis ce matin en ligne.
Absolument.
Merci beaucoup Agnès Sfer. À demain.
À demain.
Allez, on reste dans le reste de l'actualité scientifique. Une piste pour mettre un terme à l'hallucination auditive chez les schizophrènes. Le fait d'entendre des voix, c'est l'un des symptômes les plus courants de cette maladie. Et bien des scientifiques du Centre de recherche hospitalier de Saint Jude aux États-Unis viennent d'identifier un petit ARN au rôle crucial. Ce micro-ARN pourrait permettre de restaurer la fonction normale de ces parties du cerveau. Pour l'heure, les résultats de cette étude parue dans la revue Nature Medicine ouvrent la voie à un nouveau traitement avec moins d'effets secondaires. La France ne brille toujours pas en mathématiques. C'est l'Association internationale pour l'évaluation des performances scolaires qui le dit. Ce mardi est parue l'enquête TIMSS qui mesure tous les 4 ans les performances des élèves en maths et en sciences. Résultat, la France est en dessous de la moyenne en maths et loin, très loin derrière le premier de la classe, Singapour. Suivent de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, Hong Kong, la Corée, Taipei, le Japon. Le résultat de la France est à peu près le même à un point près dans les autres matières scientifiques et c'est toujours Singapour qui domine. On l'appelle barde, mais ce n'est pourtant pas dans la parole qu'elle excelle. Cette araignée découverte dans la forêt du Yunnan en Chine est la reine du trompe-l'œil. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une feuille. Feuille morte d'un côté, ventrale, feuille verte de dos. Ce leurre n'a cependant rien à voir avec la stratégie de camouflage du caméléon, expliquent les chercheurs dans le journal d'arachnologie. Il s'agit plutôt de mascarade, un phénomène qui consiste à se faire passer pour un objet inanimé ou animé. D'autres espèces y recourent, les fourmis, les mantes religieuses ou la pieuvre mimétique qui peut imiter plus de 15 espèces marines différentes. En tout cas, la photo de cette araignée feuille, dénichée pour la première fois, est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré.